Laurence Gontier fait le point sur l'actualité.
Les députés La France Insoumise comme les députés Rassemblement National comptent bien faire tomber le gouvernement de Michel Barnier, sauf retournement de situation. L'Assemblée nationale s'apprête à le censurer. Moins de 6 mois après la dissolution, 2 motions doivent être examinées à partir de 16h, celle du Rassemblement National et celle de la gauche qui devraient être adoptées avec le soutien de l'extrême droite. Les résultats devraient tomber vers 20h. L'après-Michel Barnier commence à se dessiner. Gabriel Attal imagine lui un accord de non-censure qui inclurait les socialistes, qui permettrait d'avoir un gouvernement qui échappe à la tutelle de Marine Le Pen. Si le gouvernement est censuré, les retraites seront en tout cas revalorisées sur l'inflation et il n'y aura pas de sous-indexation comme le prévoyait le projet de budget de la Sécurité sociale. C'est ce qu'a confirmé le ministre du Travail. En Géorgie, la police perquisitionne le siège d'un parti d'opposition. Des médias locaux indiquent qu'un chef de l'opposition a été battu et arrêté par la police. Le pays se prépare à une 7e soirée de manifestation dans la capitale Tbilissi. Les manifestants reprochent au pouvoir de renoncer aux ambitions européennes au profit de la Russie. Hier soir encore, les manifestations ont été émaillées de violence. L'ONU demande 47 milliards de dollars pour financer l'aide humanitaire. Entre les guerres, la crise du climat et les inégalités, le monde est à feu et à sang, a lancé son nouveau chef des affaires humanitaires. Ces 47 milliards de dollars permettront d'assister 190 millions de personnes selon ses calculs. C'est moins que ce dont l'ONU aurait réellement besoin. Alors que Notre-Dame rouvre dans 4 jours, la circulation se complique déjà aux alentours de la cathédrale. Certaines restrictions s'appliquent dès aujourd'hui, y compris pour les vélos. Certaines boîtes de bouquinistes doivent également fermer. À la Bourse de Paris, le CAC 40 actuellement dans le vert, plus 0,35% à 7280 points. Votre page d'histoire tout de suite avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
On va se rafraîchir les idées, si je puis dire, aux côtés du roi Louis XV. Alors, tout commence très bien, mais vous allez voir, pour que ça devienne une histoire, évidemment, il faut qu'il y ait un peu de drame, et le roi va tomber malade, très malade.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
On a un peu oublié aujourd'hui la guerre de succession d'Autriche. Au printemps 1744, la France est entièrement engagée. Dans cette guerre, on est au beau milieu du règne de Louis XV. Un Louis XV qui travaille à la gloire du royaume et, disons-le un peu, à la sienne. 1744, le compte est facile, il a 34 ans le roi. Ça fait seulement un petit peu plus d'un an qu'il gouverne sans premier ministre puisque le grand ministre du début de son règne, le cardinal de Fleury, est mort maintenant. Il est donc aux commandes, Louis XV, et il va participer à sa première vraie campagne militaire avec pour objectif d'aller déborder les Autrichiens sur le front flamand. Oui, c'est là-bas, c'est dans les Flandres que tout va se jouer. La ville de Lille, qui sert en quelque sorte de base arrière aux Français, n'est pas peu fier d'accueillir le fringant souverain. Je dis fringant souverain parce que vous voyez ce que peut être Louis XV à l'âge de 34 ans. Magnifique allure, très beau visage avec ses traits réguliers, ce regard sombre, superbe et intimidant, parfois teinté d'une certaine mélancolie qui aura tendance avec l'âge à s'accentuer. Mais enfin, pour l'instant, il est encore beau et rieur, Louis XV. Il est sur le chemin de la gloire. Et évidemment, c'est un grand honneur pour les Lillois de l'accueillir. Seulement voilà que d'un coup, malgré les bonnes nouvelles militaires qui commencent déjà à arriver, l'humeur des Lillois est en train de changer. On annonce en effet une arrivée, comment dire, choquante, inattendue. Ça agace beaucoup les gens et ça les déçoit. Je cite Michel-Antoine. Michel-Antoine est le grand biographe de Louis XV, bien sûr. « Les équipages de Sa Majesté s'alourdirent du plus encombrant des bagages, sa maîtresse, la duchesse de Châteauroux. Croyant revenu le temps où Louis XIV traînait à sa suite Louise de Lavallière et la marquise de Montespan dans ces mêmes plaines de Flandre, elle était venue, flanquée de sa sœur, la grosse duchesse de Lauragais, rejoindre son amant à Lille et s'était installée dans une maison jouxtant l'hôtel du gouvernement où il logeait. L'arrivée de ce renfort galant déconcerta. La bonne bourgeoisie lilloise est tout simplement scandalisée. Il faut vous dire que Louis XV a été élevé très pieusement. Il a été élevé même dans la crainte de déplaire à Dieu. Je vous parlais l'autre jour de sa gouvernante, Maman Ventadour. Je vous ai dit un mot de son gouverneur, le maréchal de Villeroy, qui n'était vraiment pas déplaisantin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Par ailleurs, Louis XV s'est marié très jeune à la très douce, très pieuse Marie Leszczynska, vous savez, qui était d'origine polonaise, et avec sa femme, il a été un mari absolument exemplaire, au moins pendant un temps. Parce que lorsque la reine, après avoir eu 10 enfants, en 10 ans, a fini par fermer sa porte, eh bien, lorsque Marie Leszczynska s'est déclarée lasse de toutes ces grossesses, qui en plus à l'époque étaient des grossesses très risquées, eh bien, elle a d'une certaine manière ouvert la place à ses concurrentes. Et voilà donc que l'entreprenante duchesse de Châteauroux, elle est une de ses sœurs de Nesle qui vont se succéder dans le lit du roi, l'entreprenante duchesse de Châteauroux rejoint le roi à Lille. Elle arrive par surprise le 8 juin 1744. Alors, il faut vous dire quand même qu'avant, le roi a eu plusieurs de ses sœurs comme maîtresses. Elle est beaucoup plus qu'une jolie veuve de 26 ans, à la beauté voluptueuse et au teint de lait. C'est une femme assez magnifique, avec un caractère très décidé. Elle est volontiers hautaine, avec des yeux bruns assez décidés. Marie-Anne est même capable d'avoir une certaine emprise sur le roi. Malgré les pieux murmures qui regrettent la présence de la favorite, alors que la reine évidemment n'a pas été autorisée à venir jusque dans les Flandres, Louis XV n'a pas l'intention de renvoyer la belle dame. Et quand, quelques semaines plus tard, une avancée autrichienne en direction de l'Alsace lui impose de partir contrer cette attaque, eh bien, il est décidé à ce que la piquante Marie-Anne l'accompagne.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le 4 août, au bout d'une longue traversée des Flandres, de la Champagne, de la Lorraine, Louis XV entre dans Metz. Metz, c'est le point de convergence du gros des armées françaises et alliées. La ville s'est apprêtée comme il se doit. Imaginez les grands décors, on a sorti tout ce qu'on pouvait. Ornements travaillés partout, les grandes tentures et les tapisseries, les fontaines où coule du vin. Je précise que c'était du vin blanc qu'on faisait couler dans les fontaines, évidemment. Les messins se bousculent pour apercevoir le roi reçu à son arrivée au pied de la cathédrale Saint-Étienne. On lui présente un morceau de la vraie croix, je cite Jean-Christian Petit-Fils. Puis il gagna la haute pierre, la résidence du gouverneur, où l'appartement d'apparat du premier étage lui était réservé. La duchesse de Châteauroux s'installa dans l'hôtel de l'abbaye bénédictine de Saint-Arnoult, séparée de la haute pierre par la rue. Le grand maréchal des logis fit construire une galerie de planches pour les relier et barricada le quartier. Officiellement, il s'agissait de permettre au roi de se rendre à couvert à la messe. Chacun comprit quelle était la vraie raison. Comme en Flandre, on ne tarde pas à Metz, au milieu des festivités qui continuent les jours suivants, à faire des gorges chaudes de ce manège faussement discret visant à assurer au roi des plaisirs extra-conjugaux dont chacun se fait le commentateur. Louis XV se concentre pour sa part sur autre chose, les préparatifs des batailles qu'il doit mener contre les Autrichiens. Seulement, le 7 août au soir, après des heures pénibles passées en selle par une chaleur arrachée, on lui voit, et c'est Luynes, grand chroniqueur du règne de Louis XV, le duc de Luynes, qui nous le dit, « Mauvais présage, il paraît triste. » Le roi serait-il malade ? La nuit qui suit semble bien confirmer cette hypothèse. Louis XV se réveille avec la fièvre et un peu mal à la tête. Ce qui pourrait paraître un mal banal va dégénérer bientôt. Le roi va tomber malade, très malade. Et l'on se dit que s'il mourait ici à Metz, alors qu'il est clairement en situation de grave péché, ce serait terrible. Jordi Savall, à la tête de son Concert des Nations, interprétait cette ouverture du magnifique Zoroastre de Jean-Philippe Rameau.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah oui, à Metz, les choses vont mal, pour ne pas dire très mal. Le roi est maintenant alité dans son bel hôtel. Il a droit à peu près à toutes les réjouissances que la médecine de son siècle peut proposer. Inutile de vous dire que c'est pas brillant. Les médecins sont là autour du lit, armés de leur matériel peu engageant, les seringues dont ils usent et abusent. On fait des purges à n'en pas finir, et les décoctions, et les saignées à grands coups de lancette. Alors, est-ce malgré leurs soins ou est-ce à cause des soins trop vigilants de cette médecine agressive, toujours est-il que l'état du roi ne s'arrange pas, au contraire. Louis XV est épuisé, la fièvre le tient et pour ne rien arranger, sans trop tarder, une ambiance délétère est en train de s'installer entre des proches qui se détestent entre eux. Vous savez, toutes les crises sont des révélateurs, nous ne sommes bien placés pour le savoir et cette crise majeure qu'est la maladie d'un roi révèle au sein même de son entourage, eh bien, toutes les haines latentes. Je cite encore Jean-Christian, petit-fils. Deux parties s'affrontaient autour de la couche royale. D'un côté, le clan de la favorite, avec Richelieu, Belle-Île et La Péronie. De l'autre, celui des dévots, avec le duc de La Rochefoucauld, grand maître de la garde-robe, le duc de Bouillon, grand chambellan, rejoint par le duc de Chartres et le comte de Clermont. Chartres et Clermont, ce sont les cousins du roi, hein, c'est la famille. En ces premiers jours de maladie, ce sont Marie-Anne, sa sœur et leurs amis qui tiennent la place. Dans la chambre, la duchesse de Châteauroux contrôle entrée et sortie. Il faut dire qu'elle sait très bien que si le roi est menacé, c'est elle qui l'est d'abord. Elle redoute que les dévots, s'ils devaient accéder au roi, mettent en tête de sa majesté qu'il se mette en paix avec Dieu. Vous savez, qu'il apure sa conscience. Et forcément, ça ne pourrait se faire qu'au détriment de la favorite. Alors elle va déployer sa tendresse, sa force de conviction pour expliquer à son amant royal qu'après tout, il ne va pas si mal et qu'il va se rétablir. Il est jeune, il est fort. Pendant ce temps, l'irritation de ceux qui sont tenus à distance est en train de friser la crise de nerfs. Reste que Marie-Anne et le maréchal de Richelieu, le roué Richelieu, savent qu'ils ne pourront pas éloigner leurs ennemis éternellement. La favorite finit donc par prendre les devants. Elle va parler au père Perusseau, qui est un vieux jésuite confesseur du roi. C'est un pari osé. La favorite sait qu'elle n'a que sa contrition, que son charme à opposer à l'intransigeance de l'homme de Dieu. La scène nous est racontée dans les mémoires, certes apocryphes, mais souvent passionnants, du maréchal de Richelieu. Elle lui dit, les larmes aux yeux et avec sensibilité, « Je vous jure que si vous voulez éviter un éclat, je me retirerai de la chambre du roi pendant sa maladie. Je ne reviendrai plus à la cour que comme son amie, jamais comme sa maîtresse. Je me convertirai et vous me confesserez. » Le prêtre prend sans doute la manœuvre de Marie-Anne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un aveu de faiblesse. En tout cas, il ne juge même pas utile d'essayer de la rassurer. Et le temps joue en faveur du parti dévot, puisque le 12 août, il devient assez difficile de fermer à ce parti-là la porte du roi. Après 5 jours de maladie, Louis voit donc Monseigneur de Fisjam, qui est le fier évêque de Soissons, s'approcher de son lit. Le prélat ne gaspille pas l'occasion. Il s'empresse de lui glisser des phrases édifiantes sur la nécessité d'un roi malade à se confesser. Louis sait bien que si son trépas devait se préciser, eh bien, il devrait implorer le pardon d'en haut, mais il a l'impression qu'il n'en est pas encore tout à fait là, alors il commence par décliner l'offre de l'évêque. Pourtant, il est clair que le roi repense à tout cela et que les scrupules religieux qui ne sont jamais très loin dans son esprit sont en train là de l'envahir littéralement. Ce même jour, nous dit Michel-Antoine, Madame de Châteauroux étant près de son lit, le roi lui fit un baise-main puis la repoussa. « Ah, princesse, je crois que je vais mal. » Elle voulut l'embrasser, il refusa et ajouta « Il faudra peut-être nous séparer. » Il passa le reste du jour dans un grand trouble d'esprit, nous dit Michel-Antoine. Le roi est assailli par la mauvaise conscience. L'idée qu'il pourrait mourir en état de péché est tout simplement insupportable. Et bientôt, les choses se précipitent. Dès le lendemain, alors qu'on célèbre le Saint-Office près du roi, voilà que Louis XV chancelle avec des tremblements maintenant terribles. Il prend peur et il demande le père Perusseau de toute urgence. Le prêtre paraît rapidement. Il s'isole avec l'éminent pêcheur et c'est cette fois Marianne qui est tenue à distance de l'autre côté de la porte. On peut imaginer les perles de sueur froide sur le beau front blanc de la duchesse. Elle le sait, la revanche des dévots va être terrible. La coûteuse addition du salut du roi est très vite adressée à Madame de Châteauroux. Monseigneur de Fitzjam, à peine la confession terminée, assène l'ordre du roi. Elle doit partir, et elle doit partir maintenant. Marianne est abasourdie, elle se sent très humiliée, mais que peut-elle faire? Elle s'en remet au maréchal de Richelieu, très rusé, très habitué à la cour, il est premier gentilhomme après tout, et lui-même l'encourage à partir. Mais pas trop loin, lui dit-il, pas de quoi satisfaire Fitzjam, qui prépare une réplique à peine croyable. Dominus Regnavit, éblouissant grand motet de Jean-Joseph Cassania de Mondonville, l'orchestre et les chœurs des arts florissants étaient sous la direction de William Christie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est un véritable bras de fer auquel se livrent maintenant Monseigneur de Fitzjam et la Duchesse de Châteauroux. Et vous avez bien compris dans quel camp le sort incline. Jean-Christian Petit-Fils nous le dit, le soir, Madame de Châteauroux et sa sœur n'ayant pas encore quitté Metz, Monseigneur de Fitzjam fit retirer le Saint-Sacrement de tous les tabernacles de la ville et différa la communion. Les lois de l'Église et de nos saints canons, dit-il sentencieusement au mourant, nous défendent d'apporter le viatique lorsque la concubine est encore dans la ville. Je prie votre majesté de donner de nouveaux ordres pour leur départ, car vous n'avez pas de temps à perdre. Ce terme de concubine frappa le roi, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, et le roi céda. Et Marianne et sa sœur, cette fois, n'ont plus le choix. Il faut déguerpir en toute hâte. Et les voilà qui, sous un flot d'insultes, recevant les trognons de choux et de pommes, sont en train, devant ce peuple terrorisé pour le salut de son roi, sont en train de déguerpir. Monseigneur de Fitzjam veut encore davantage du pénitent. Étant donné la gravité des péchés de Louis XV, il considère que le jeune roi doit aller au-delà d'une confession secrète, et le 14 août, l'évêque veut un repentir devant témoin. Vous imaginez de quoi il s'agit, là, pour le roi de France. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons d'interpréter cette demande. On peut se dire que c'était un souci sincère de la part du prélat d'assurer au roi son salut après des scandales publics et répétés qui, semblait-il, devaient menacer tout le royaume, mais beaucoup ont vu plutôt dans l'attitude de l'archevêque une pression plus que douteuse sur un mourant vulnérable pour montrer la domination de l'Église sur l'État royal. C'était ça. C'est toujours ce vieux bras de fer qui traverse les siècles et qui tisse notre histoire. Quoi qu'il en soit, le roi qui est très mal, qui se sent à l'article de la mort, le roi qui est tenaillé par cette mauvaise conscience, va consentir à tout ce qu'on veut. En public, il va se laisser accabler de ses manquements. On proclame son indignité, soumission complète du roi. Il va même exiger que Marie-Anne aille s'installer le plus loin possible de la cour. On va l'envoyer là-bas dans le Morvan. Et après l'extrême onction qu'on attendait et qui justifiait toutes ces simagrées, eh bien, le roi peut s'apaiser. Il est prêt à passer dans l'au-delà, escorté par les prières de tous ceux qui sont autour de sa couche, escorté peut-être aussi par sa foi en la divine miséricorde.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au matin du 15 août, la mort de Louis XV paraît n'être plus qu'une question d'heure. Tout le monde s'y prépare maintenant, seulement cette mort ne vient pas. Louis XV semble devoir s'acharner à survivre à ce mal mystérieux qui s'est emparé de lui. Et puis, on commence à constater quelques accalmies. On est toujours dans cet entre-deux un peu effrayant. Ça dure plusieurs jours, bien sûr. Et ça laisse le temps à la reine Marie d'arriver. Elle est arrivée de Versailles, bien entendu. La reine Marie Leszczynska entre à Metz dans la nuit du 17 au 18 et elle est là bientôt au bord du lit de son mari pour l'étreindre avec une tendresse touchante. Je cite le merveilleux Pierre de Nolhac. « La première parole du malade est une prière, nous dit Nolhac. Je vous ai donné, madame, bien des chagrins que vous ne méritez pas. Je vous conjure de me les pardonner. Et ne savez-vous pas que vous n'avez jamais eu besoin de pardon de ma part ? Dit la reine. Dieu seul a été offensé. Ne vous occupez, je vous prie, que de Dieu. » La reine n'a pu dire ces mots sans fondre en larmes, bien sûr. Cet échange conjugal paraît soutenir le souverain dans les heures qui suivent et, disons-le, il va de mieux en mieux. Et même quelques jours après, il va franchement mieux. L'entourage commence à se rassurer, même si pour son fils adolescent, le dauphin Louis, le sentiment paraît plus mitigé puisque lui se voyait déjà ceindre la couronne. En tout cas, c'est ce dont le roi, jusqu'à la fin de ses jours, l'aura soupçonné. Le royaume, en tout cas, respire. On faisait partout des prières, des actions de grâce, des veilles, et voilà que d'un seul coup, la bonne nouvelle arrive. Le roi, à Metz, semble guéri. Louis va devenir le bien-aimé. Eh oui, c'était le surnom de Louis XV, en tout cas pour un temps. Louis le bien-aimé et son règne va pouvoir continuer. Le roi, après une convalescence de plusieurs semaines, décide de reprendre sa campagne militaire. Il va même participer à la prise de Frisbourg en Brisgau. On est à la fin du mois de novembre. Il est de retour à Versailles assez tard dans le mois. Et déjà depuis longtemps, il a pu repenser à tout ce qu'il a vécu à Metz. Et s'il considère que ses péchés appelaient bien à repentir, il juge quand même que les dévots sont allés trop loin. Ils ont essayé de saper son pouvoir. Alors il va montrer qu'il est le maître. Il fait revenir auprès de lui le maréchal de Richelieu, qui avait été éloigné à peu près en même temps que la favorite. Évidemment, Richelieu n'est pas du genre à cacher ce qu'il pense de tous ces dévots qui avaient voulu son mal. Il va prendre sa revanche, bien entendu. C'est la défaveur du camp des vents. Le roi va plus loin. Il fait demander à Marie-Anne, à la duchesse de Châteauroux, de revenir. Et à sa demande, il le fait de manière à ce que chacun sache que toute trace de disgrâce est effacée. Et voilà le triomphe de cette favorite tellement impopulaire. Mais survient à ce moment-là un dernier coup de théâtre, puisque dès la fin de novembre, cette jeune femme de 27 ans va être à son tour atteinte d'un mal subi. On doit la mettre au lit et les jours passent, elle est toujours plus faible. Contrairement au roi à Metz, elle n'en reviendra pas. Le 8 décembre, à l'aube, qui était un peu l'aube de sa vie en même temps, Marie-Anne a passé de vie à trépas. Et Henri Henriot conclut avec un esprit qui est très français. Elle n'eut que le bonheur de la victoire, mais non point ses profits.
Vous écoutez Radio Classique.
Thank you.
peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme. Pour toute commande du 4 au 9 décembre.
Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable, réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participants du 4 au 9 décembre. Si Accordiac, voir Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Tous les pianos Yamaha, marque la plus jouée au monde, sont chez Nebouéam, l'adresse des beaux pianos à Paris. Piano droit, piano à queue ou numérique, piano silent ou hybride, nous proposons dans nos 4 magasins Nebouéam le plus grand choix de pianos Yamaha au meilleur prix. Nebouéam, votre espace Yamaha Premium à Paris. Ouverture d'un nouveau magasin Nebouéam, rue Rondelet dans le 12e, métro Reuilly-Diderot. Nebouéam, la passion des beaux pianos.
Le Monde et Télérama donnent rendez-vous aux lycéens, étudiants et parents au Salon des formations artistiques les 7 et 8 décembre à Paris Montreuil Expo. Conférences, rencontres avec les représentants des écoles d'art, participation à des ateliers et animations, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Inscription gratuite sur salon-artistique.lemonde.fr.
Au cœur de Nîmes, le festival Les Volques, dédié à la musique de chambre, met en miroir un compositeur d'hier et d'aujourd'hui. Pour sa 5e édition, les Volques se mettent à leur tchèque et explorent Dvorak et Andrzej Adamek avec le quatuor Diotima, Isabelle Druet, une carte blanche à Renaud Capuçon et Emmanuel Pahu. 8 concerts, 3 masterclass publiques, 4 concerts pour les enfants, des films et des rencontres. Le festival Les Volques, dans les lieux emblématiques de Nîmes, du 9 au 15 décembre.
Aujourd'hui, de nombreuses communautés religieuses, catholiques, protestantes ou orthodoxes, faute de moyens suffisants, ne peuvent entretenir le patrimoine artistique ou culturel des monastères qui les abritent. En faisant un don à la Fondation des monastères, vous pouvez contribuer, même modestement, à soutenir cette cause. Vous souhaitez nous aider ? Rejoignez-nous sur le site fondationdesmonastères.org. Par décret du 21 août 1974, la Fondation des monastères est reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs d'avantages fiscaux.
14h30, 17h, Tempo, avec Pauline Lambert, sur Radio Classique.
Quel plaisir d'être de retour sur Radio Classique, entouré de ma merveilleuse équipe. Je ne le dirai jamais assez à quel point ils sont essentiels, Jérémy Vigori et Lucille Metz. C'est leur savoir-faire, leur connaissance et leur bienveillance aussi qui vous permet d'écouter tous les jours pendant 2h30 cette émission. Et puis c'est aussi un peu vous qui la faites, cette émission. C'est vous aussi qui travaillez dans cette séquence qui vous est dédiée, le Tempo des auditeurs. Un travail clandestin, non rémunéré, mais je l'assume, car c'est pour la bonne cause et pour la gloire de Mozart. Quelle est l'œuvre de Mozart que vous préférez ? À vos idées, à vos commentaires via radioclassique.fr, les réseaux sociaux ou l'appli de Radio Classique sur votre téléphone. 16h30, place à une princesse mystérieuse et inflexible, la fille de l'empereur de Chine, qui séduit aussi bien les hommes qui tentent de conquérir sa main, que les compositeurs qui sont nombreux à avoir écrit pour elle. J'ai nommé Turandot, elle a fasciné Weber, Busoni et Puccini bien sûr, je vous en parlerai plus longuement dans la fantaisie. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Tempo.
Thank you. Et oui, pourquoi pas un final pour ouvrir cette émission ce mercredi 4 décembre. Un final flamboyant et ce tempo allegro con fuoco. Les dernières notes de la première sonate pour piano de Johannes Brahms. Et c'est Alexandre Kantorov qui clôt ainsi son grand cycle, qui a enregistré toutes les sonates pour piano de Brahms. Là, c'était donc cet album tout récent, sorti chez Bis, label auquel il reste très fidèle. Album qui a reçu aussi un trophée Radio Classique il y a 15 jours et dont Christian Morin vous parlait bien sûr à ce micro. C'est une sonate qu'Alexandre Kantorov a enregistrée en Suisse à la Chaux de Fonds. Très bel endroit, absolument parfait pour enregistrer notamment des pièces pour piano. Et dans cet album figurent aussi des pages de Franz Schubert. Schubert que voici, changement de tempo avec ce mouvement lent, le deuxième mouvement de sa cinquième symphonie. Je vous propose d'écouter sur Radio Classique Nikolaus Harnoncourt avec l'Orchestre de Chambre d'Europe.
Thank you.
Un très bel Andante con moto, le deuxième mouvement de cette cinquième symphonie de Franz Schubert, avec l'Orchestre de Chambre d'Europe et avec Nikolaus Arnoncourt, chef d'orchestre bien sûr connu pour son immense connaissance du répertoire baroque, mais qui a aussi beaucoup dirigé d'orchestres modernes, Vienne, Amsterdam et donc ici l'Orchestre de Chambre d'Europe. Nous sommes le mercredi 4 décembre, Noël c'est dans 20 jours exactement, alors puisque c'est notre tradition dans cette émission pour bien patienter jusqu'à Noël, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent musical. Quelle surprise nous ont réservé les équipes de Radio Classique ? Eh bien, nous allons la découvrir ensemble.
Le calendrier de l'Avent avec Pauline Lambert. C'est Noël sur Radio Classique.
Une page particulièrement réjouissante, c'était le cœur d'entrée de l'oratorio de Noël. La toute première cantate de cet oratorio, composée par Jean-Sébastien Bach, bien sûr, avec le Concentus Musicus de Vienne et son chef fondateur Nikolaus Arnoncourt, avec aussi le chœur Arnold Schönberg. Car Noël, c'est dans 20 jours, et cet oratorio de Noël, d'ailleurs, le savez-vous, ne concerne pas seulement la nuit de Noël, avec cette cantate de la nativité que nous écoutions à l'instant. Cet oratorio regroupe en tout 6 cantates, qui nous conduisent jusqu'à la venue des rois mages et jusqu'à l'épiphanie. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Car nous marquons une petite pause à suivre le flash de 15h. Et puis ce sera la baguette de la jeunesse. Une page là aussi très réjouissante, signée Elgar.
Chaque dimanche de décembre avant Noël, la magie des fêtes s'éveille en musique à l'abbaye royale de Fontevraud. 2 concerts des arts florissants, la grande messe vénitienne de Vivaldi et un concert de Noël à la bougie, une création originale du trio La Mécanique des Songes et La Petite Fille aux Allumettes par le Macadam Ensemble. Tous les détails sur fontevraud.fr.
Vanessa Wagner fêtera sa double actualité discographique avec un récital exceptionnel en 2 temps. Le premier sur le ton de la confidence avec Grieg et Tchaïkovski. Le second, plus extraverti, dédié à Debussy et Ravel, avec son complice Willem Lachumia. Rendez-vous au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, lundi 9 décembre à 20h. Réservation sur théâtredesbouffesdunord.com. Un événement, la Dolce Volta.
L'Opéra Royal de Versailles illumine vos fêtes de Noël avec la flûte enchantée de Mozart en français. Hervé Niquet dirige ici une version familiale chantée en français entre contes et fables initiatiques qui séduira petits et grands. Et le 31 décembre, assistez à un somptueux feu d'artifice depuis la Galerie des Glaces. La Flûte Enchantée, du 27 décembre au 1er janvier, un spectacle à ne pas manquer à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
15h sur Radio Classique. Le Flash avec vous, Laurence Gontier.